Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. Comme nous vous l'avions annoncé dans notre émission du 6 juillet dernier avec Philippe Cérès, le directeur de la communication du Sénat, Canal Académie vous propose de découvrir les rapports du Sénat. Aussi avons-nous aujourd'hui le plaisir d'accueillir Madame Catherine Dumas, sénatrice de Paris et conseillère de Paris. Madame la sénatrice, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour Madame le maire.
Vous êtes l'auteur d'un rapport intitulé « Les arts culinaires, patrimoine culturel de la France ». Il s'agit d'un rapport d'information élaboré en juin-juillet 2008 au nom de la Commission des affaires culturelles dont vous êtes membre. Ce rapport concerne l'inscription de la gastronomie française au patrimoine immatériel de l'UNESCO, pour laquelle la France prépare actuellement, je crois, un dossier de candidature, comme l'avait annoncé notre président de la République au Salon de l'agriculture en février dernier. Pour cela, vous avez auditionné une vingtaine de professionnels de la gastronomie, des cuisiniers, des grands chefs, des chroniqueurs gastronomiques, représentant la diversité des produits et des métiers de la cuisine française, audition dont les comptes rendus sont publiés dans votre rapport. Nous sommes, Madame la Sénatrice, particulièrement heureux de vous rencontrer sur Canal Académie, qui est un lieu de gastronomie, puisqu'une trentaine d'émissions sont consacrées à ce thème et que Canal Académie a une chronique gastronomique qui est confiée au docteur Jean Vitteau, un grand connaisseur de l'histoire de la gastronomie que vous citez dans votre rapport. Vous écrivez en effet, dans son ouvrage sur la gastronomie, « L'art de régler l'estomac », Monsieur Jean Vitteau souligne que manger en tant que gastronome est un acte culturel. Aussi vous demanderai-je quelle définition vous donnez des arts culinaires, qui est donc le titre de votre rapport, et quelle différence faites-vous entre les arts culinaires et la gastronomie ?
Bien, tout d'abord, Madame le maire, merci de m'inviter à Canal Académie aujourd'hui. Je suis tout à fait flattée d'être la première dans ce type d'émission qui évoque donc un rapport parlementaire. Je crois qu'en tant que sénatrice de Paris, c'est en effet tout à fait important, et tous mes collègues sénateurs pensent de même, que les travaux du Sénat soient évoqués. Et merci encore de pouvoir les faire connaître. C'est vrai que le Sénat est une institution qui travaille beaucoup et qui a parfois une distorsion entre les travaux qui sont d'une grande qualité et la connaissance qu'en a le public. Donc merci pour cette occasion. Donc vous évoquez le rapport que je viens de rendre au mois de juillet sur les arts culinaires. Alors c'est un rapport qui a été fait donc à la demande du président de la Commission des affaires culturelles du Sénat, Jacques Vallade, et évidemment suite à l'initiative qu'a pris le président de la République en février dernier, vous l'avez rappelé, au Salon de l'agriculture, de demander à ce qu'il y ait une réflexion et une mission sur l'inscription donc de la gastronomie française au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je voudrais noter aussi que cette mission a été confiée à Jean-Robert Pitt, qui est un émérite universitaire, ancien président de la Sorbonne, qui a donc lui la tâche de mener cette mission. Mon rapport, à quoi sert-il ? Mon rapport est un rapport donc de sénateur, un rapport parlementaire, qui est là pour poser le problème, hein, pour poser le sujet, et évidemment faire un certain nombre de recommandations liées à cette démarche d'inscription de la gastronomie française au patrimoine de l'UNESCO, qui est une démarche, je le dirais en préambule, mais c'est important à noter d'ores et déjà, qui est une démarche quasi diplomatique. Alors vous me demandez quelle différence il y a entre les arts culinaires et la gastronomie et comment définir la gastronomie. Alors c'est vrai que mon rapport, j'ai préféré le titre des arts culinaires pour donc intituler ce rapport à la gastronomie. Ça répond à une nécessité de la démarche, à savoir qu'il faut que ça soit une démarche qui ne soit pas élitiste, mais une démarche qui rencontre une adhésion des Français, une démarche populaire. Et c'est vrai que le mot gastronomie, quelque part, si on sort de son vrai sens, le sens le plus utilisé est un sens quand même plutôt élitiste. Quand on parle de gastronomie, on pense qu'il y a une association d'idées avec les grands chefs, les étoiles au Michelin, etc. Donc j'ai préféré le mot art culinaire. Pourquoi aussi ? Parce que d'abord pour moi, et ça s'est avéré au fil des auditions, la gastronomie et l'art de faire la cuisine est à la fois entre le chef, se qualifier entre l'artiste et l'artisan. Le chef est un peu l'intermédiaire entre l'artiste et l'artisan. Donc il y a vraiment une notion d'art. Et la notion d'art culinaire répond vraiment à la définition de ce qu'on peut appeler l'intelligence de la main. C'est-à-dire que c'est le savoir-faire de la main. Donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser la notion d'art culinaire pour intituler ce rapport. D'autre part, qu'est-ce que l'art culinaire, qu'est-ce que la gastronomie ? Bon, ça, j'ai pas la réponse forcément. La définition qui convient aux deux pourrait être la façon de bien manger. C'est l'art de bien manger, la gastronomie.
Je voulais aussi vous demander si les arts de la table faisaient partie des arts culinaires. Est-ce que vous les englobez dans votre définition ?
Tout à fait, parce que je pense que le fait justement de bien manger, c'est un tout, que c'est à la fois d'abord le produit de base, qui est la base de la cuisine, ce qui est quand même l'élément essentiel, et je l'ai bien montré dans mon rapport, l'importance du produit de base. Après, c'est le savoir-faire du chef, c'est évident, la façon d'apporter son savoir au produit, donc là on parle de l'intelligence de la main, et puis aussi le décor, parce que quelque part, le fait de bien manger est tout à fait lié au moment subjectif que l'on va passer en goûtant un produit très bien fait par une main experte dans un beau cadre. Alors beau, pas forcément beau au sens encore une fois d'élitiste, mais dans un cadre agréable qui va convenir au fait de bien manger. Donc c'est vrai que les arts de la table pour moi font tout à fait partie des arts culinaires et d'ailleurs dans mon rapport, vous avez pu le constater, j'ai auditionné un certain nombre de personnes référentes liées aux arts de la table comme la cristallerie, d'autres encore, ça peut être aussi la porcelaine, tout ce qui fait l'art de la table jusqu'aux nappes en broderie ou à d'autres types de nappes. Donc les arts de la table, oui, pour moi, bien sûr, font partie de l'art culinaire.
Oui, et elles font partie du plaisir de la table et de la cuisine française.
Tout à fait.
Vous soulignez dans votre rapport que la gastronomie est une passion française et que les arts culinaires français sont ancrés dans notre culture et notre identité. Donc j'imagine une passion ancienne. Pourquoi cette passion ? Comment s'exprime-t-elle ? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus pour nos éditeurs ?
Alors là, c'est l'essence même, je dirais, de la démarche demandée par le président de la République. L'inscription donc de notre cuisine, notre gastronomie au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi ? En effet, pourquoi la France plus qu'un autre ? D'abord, je voudrais tout d'abord dire que ce n'est pas une démarche qui ne saurait s'appliquer qu'à la France. On n'a jamais prétendu être les seuls à avoir une cuisine qui puisse prétendre à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. En revanche, c'est vrai qu'il y a une relation, je dirais, identitaire et culturelle entre la France, les Français et la cuisine. Alors ça, vous allez me dire, comment pouvez-vous dire ça ? Eh bien, je pense déjà par le biais de l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a un lien très fort dans notre pays avec la cuisine, la tradition culinaire. Dans l'histoire de notre pays, ça remonte à des périodes très très anciennes. D'ailleurs, des livres en général et puis des livres de cuisine également en témoignent. Et que c'est vrai que la France est très attachée à une tradition, très attachée à sa cuisine. C'est d'ailleurs reconnu par les étrangers. On assimile en général notre pays au bien manger. Donc il y a une vraie identité et c'est pour ça que d'ailleurs le président de la République a demandé à Jean-Robert Pitt d'entamer cette démarche.
Donc vous nous avez dit au fond pourquoi la gastronomie française doit être inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le sens de cette démarche et ses principaux enjeux ? Et puis aussi, qui est à l'origine de ce projet ? Il y a eu, je crois, des études de scientifiques préalablement à la déclaration du président de la République. Il me semble avoir lu cela dans votre rapport.
Oui, alors c'est vrai qu'au départ, le président de la République a fait cette annonce au Salon de l'agriculture. C'était en effet le lieu idéal des produits et qui en plus est un lieu qui représente bien la diversité des terroirs français puisque sur ce plan-là, en termes de géographie, la France est aussi assez exceptionnelle tant par ses climats climat, que la diversité de ces territoires. Donc là, on a un atout. C'est vrai qu'avant que le président de la République fasse cette annonce, il y a eu des travaux qui ont été faits depuis très longtemps par des universitaires, notamment à l'Université de Tours, par des chercheurs qui ont travaillé donc sur la relation très particulière de la France et de sa cuisine et de ses produits. Donc à l'initiative, il y a en effet cette équipe de chercheurs de Tours, dont M. Chevrier d'ailleurs, et également Jean-Robert Pitte qui accompagnait en tant qu'universitaire cette démarche. Le président de la République l'a su et donc quelque part après on a fait cette idée sienne en demandant cette inscription au patrimoine mondial. Alors pourquoi ? D'abord, il faut dire que ce n'est pas une démarche élitiste hein, de la France. C'est tout le contraire. C'est une démarche qui doit quelque part montrer que tous les Français sont derrière cet enjeu. C'est une démarche qui doit être populaire, qui doit convaincre toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgés. Et là, il y a un véritable enjeu, notamment pour les plus jeunes. J'imagine qu'on y reviendra par rapport à la façon de se nourrir. C'est une démarche qui doit convaincre toutes les classes sociales, bien sûr, et puis aussi qui a un intérêt pour toutes les provinces de France, hein, encore une fois, puisque notre pays est très, a une grande variété en ce domaine. C'est une démarche qui, donc, doit être populaire et non pas élitiste. C'est une démarche aussi créative et d'innovation. Beaucoup ont dit, mais si on inscrit la cuisine au patrimoine mondial, on va la muséifier. Bien sûr, quand on parle du patrimoine mondial, on a toujours en tête, je dirais, des éléments d'abord matériels, alors que là, on est dans l'immatériel, et les éléments matériels, des châteaux, des prestigieux, des monuments prestigieux que l'on inscrit au patrimoine. Il ne s'agit pas du tout de ça avec la cuisine française. Hein. Il s'agit au contraire de susciter encore plus d'innovation, de créativité et non pas de la muséifier, bien entendu. Et dernier point, on a dit aussi la gastronomie n'est pas en péril. Bien entendu que non. Hein. Il ne s'agit pas d'un monument qui serait en péril.
Ça n'est pas un chef-d'œuvre en péril.
Tout à fait. Vous avez tout compris. Il ne s'agit pas d'un monument qui serait à sauvegarder, pour lequel il faudrait mettre à disposition des fonds. C'est tout le contraire. Là, on est dans une autre démarche vis-à-vis de l'UNESCO. Il s'agit plutôt d'une démarche de reconnaissance et de reconnaissance de cette gastronomie pour ce qu'elle est et de ce qu'elle peut apporter en tant que telle à d'autres pays également.
Oui. Permettez-moi de revenir sur la notion de patrimoine culturel immatériel. Pouvez-vous éclairer nos auditeurs sur ce que l'on entend par patrimoine culturel immatériel ?
Ça, c'est le véritable enjeu de l'inscription de la France, enfin, de la cuisine française. Il faut savoir qu'à l'UNESCO, il y avait jusqu'à présent une convention pour les biens matériels, c'est-à-dire qu'on inscrivait au patrimoine mondial de l'UNESCO des biens matériels, avec souvent d'ailleurs une clause de la sauvegarde et également des fonds pour, je dirais, venir au secours de ce patrimoine. Aujourd'hui, et ça c'est tout récent, puisque les décrets d'application sont sortis en juin 2008, il y a possibilité d'inscrire des biens immatériels. Alors, de quoi s'agit-il ? Entre-temps, il faut savoir qu'il y a eu ce que l'on appelle une liste représentative de 90 chefs-d'œuvre, qui sont en fait des expressions et des rites culturels. Donc, pour vous citer des exemples qui n'ont absolument rien à voir avec notre cuisine, par exemple, on a inscrit la place Gemma Elfna pour ce qu'elle représente en matière de culture. Donc là, il s'agissait bien d'une liste représentative qui n'était plus dans les biens matériels. Alors là, avec la cuisine, on passe vraiment dans les biens immatériels. Donc, c'est une première démarche pour l'UNESCO. Et il s'agit donc de choses qui ne sont pas pérennes et qui sont soit des biens, encore une fois, représentatifs d'une culture qu'il faut sauvegarder avec à la source des financements, soit vraiment des biens qui représentent des rites ou une culture, mais qui n'est pas forcément matériel comme la cuisine, puisqu'on considère que la cuisine, je ne sais pas si je suis claire, mais on considère que la cuisine n'est pas un bien matériel puisqu'elle est toujours à refaire, qu'elle n'est pas pérenne. Donc c'est pour ça qu'elle serait inscrite dans ces biens immatériels. Mais encore une fois, avec à la clé pas de financement de l'UNESCO, c'est une reconnaissance. Hein. Il s'agit d'une reconnaissance d'un bien immatériel qui serait la gastronomie française.
Certaines personnalités que vous avez auditionnées ont fait observer que cette démarche pourrait être en décalage avec l'esprit de la Convention de l'UNESCO, qui date, je crois, de 2003, et qui a d'abord été pensée pour valoriser le patrimoine immatériel des pays du Sud. N'est-ce pas un écueil? Qu'en pensez-vous?
Alors, vous revenez donc à l'esprit donc, de la Convention 2003, encore une fois, qui s'applique qu'à partir 2008, hein, avec ses décrets d'application en juin 2008. C'est vrai qu'au départ, d'après ce que j'en sais, et comme on en dit les personnes de l'UNESCO, il y avait une distorsion entre les pays dits riches, plutôt du Nord, qui avaient un patrimoine matériel, celui-là, qui était déjà très largement inscrit au patrimoine de l'UNESCO, donc là on revient à des biens matériels, et que les pays du Sud, qui sont beaucoup plus handicapés par rapport à ce type de patrimoine, avaient moins de possibilités d'inscrire des chefs-d'œuvre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc l'UNESCO a réfléchi à ce problème, et c'est dans cet esprit qu'a été donc formulée la nouvelle convention pour les biens immatériels, donc d'abord en 2003, avec application en 2008. Donc ça, c'est la démarche du départ, et c'est tout à fait normal. Il fallait en effet rétablir un certain déséquilibre entre, on peut dire, le Nord et le Sud, en parlant d'une façon un peu schématique. Ceci dit, dans cette convention immatérielle, il y a quand même, je l'ai abordé un peu tout à l'heure, deux choses bien différentes. Il y a un patrimoine immatériel à sauvegarder avec financement à la clé, et d'autre part, un patrimoine représentatif qui, lui, n'a pas besoin de fonds. Donc nous, on s'inscrirait dans la deuxième liste, qui est donc justement du patrimoine représentatif, mais qui n'est pas dans le patrimoine de sauvegarde auquel peuvent prétendre les pays du Sud.
Et que préconisez-vous pour donner à ce projet les meilleures chances de succès ?
C'est une démarche quasi diplomatique. Je ne vais pas faire de comparaison avec l'écueil que nous avons eu avec les derniers Jeux Olympiques, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Mais quand même, il faut savoir donc qu'il faut que la France construise un dossier qui doit remplir des critères fixés par l'UNESCO, bien entendu, et par la Convention, et qui sont donc très liés à une démarche diplomatique. Il faut vraiment que notre projet s'inscrive bien dans ces critères. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est, je dirais, une des plus grandes parties de la démarche. Après, à la France, de démontrer d'une façon à la fois humble mais aussi très volontaire que sa gastronomie, son art culinaire correspond bien à la démarche de l'UNESCO. Alors là, il y a tout un projet à démontrer. Pour ma part, dans mon rapport, encore une fois, mon rapport n'est là qu'en éclairage de la démarche faite par la mission PIT. Dans mon rapport, j'ai insisté sur un certain nombre de points qui me semblent importants pour montrer que cette démarche aura un impact en France, mais à l'extérieur de la France, pour les autres pays aussi, notamment par rapport, je dirais, à l'éducation au goût, c'est très importante pour moi, notamment par rapport aux nouvelles générations, par rapport à toutes les retombées économiques en matière d'emploi que tous les métiers autour de l'art culinaire français peuvent apporter. On parle de 50 000 emplois par an. Et puis aussi, une démarche très ouverte par rapport à d'autres pays, puisque cette démarche doit être, je dirais, quelque part didactique, encore une fois, d'une façon très importante, vis-à-vis d'autres pays qui aujourd'hui ont malheureusement un certain nombre de problèmes, notamment alimentaires.
Il s'agit aussi sans doute d'éviter le risque d'un nationalisme des fourneaux. Cette expression est employée par le Jean Musitelli, que vous avez auditionné, qui est conseiller d'État et délégué permanent auprès de l'UNESCO. Et donc c'est un autre écueil, mais je pense que il y a certains moyens de l'éviter.
Oui, et Monsieur Musitelli, que j'ai auditionné avec vraiment beaucoup d'intérêt, en effet beaucoup insisté sur cet aspect. Et il est évident qu'il ne faut surtout pas que ce soit une démarche cocorico, hein, franco-française. Je crois que j'en étais très consciente, que je l'ai inscrit dans mon rapport, et que d'autre part, tous les chefs que j'ai rencontrés, qui sont quand même à la base de, je dirais aussi de cette démarche, puisqu'ils sont là pour l'illustrer, cette démarche, en sont tous très conscients, le disent et en plus le pratiquent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément d'échanges entre tous ceux qui font notre art culinaire français et les pays extérieurs, qui a beaucoup de, je dirais, de dons. Alors d'échanges, parce qu'on prend beaucoup à l'extérieur, mais on apporte aussi beaucoup. Donc il y a un échange mutuel qui vraiment est très très fort, avec les pays avec lesquels on a l'habitude de travailler, mais je dirais bien au-delà. Aujourd'hui, nos chefs vont en Inde, vont dans des pays très lointains, des pays d'ailleurs émergents avec un potentiel extraordinaire, qui sont très demandeurs, qu'on leur apporte, mais qui eux aussi nous apportent dans ce savoir-faire. Donc, ce n'est pas du tout une démarche hexagonale, c'est au contraire une démarche tournée vers l'extérieur.
Votre rapport montre aussi que cette initiative recueille l'adhésion des professionnels de la gastronomie française. Il semble qu'il y ait une belle adhésion donc des grands chefs, mais aussi de nouveaux chefs, de ceux qui pratiquent la nouvelle cuisine, des boulangers, des fromagers. Pouvez-vous donc ce consensus au fond des professionnels?
Humainement, c'est une très belle aventure, c'est vrai. Je dois dire que quand j'ai commencé à auditionner pour ce rapport, quelque part, la démarche n'était pas encore très connue. Elle l'était de la part de certains initiés, mais encore pas très connue. Et je dirais que même certains chefs ne comprenaient pas trop de quoi il s'agissait. Donc, quelque part, mon rapport a eu un effet aussi didactique. On a pu échanger par rapport à cette démarche. Et je dirais qu'aujourd'hui, si au départ, certains n'avaient pas tout à fait compris, ce qui est normal, il fallait expliquer, maintenant, tous ont compris et qu'il y a une vraie adhésion des chefs, de toutes les professions qui sont autour des arts culinaires. Et en effet, vous avez cité les boulangers, ceux qui travaillent sur le goût, et ceci aussi autour de toutes les générations. Il y a des très jeunes chefs qui travaillent d'une façon plus médiatique, il y a des chefs plus classiques avec beaucoup d'étoiles. Il y a une vraie adhésion de toutes ces professions autour de cette démarche.
Je vous propose, Madame la Sénatrice, de marquer une courte pause et nous reprenons dans quelques instants cette émission.
Alain Besançon, Renaud Denois de Saint-Marc, Henri Amouroux, Pierre Mazeaud, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levitte, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie.
Nous reprenons notre émission avec Madame Catherine Dumas, sénatrice, auteure d'un rapport sur les arts culinaires, patrimoine culturel de la France. Madame la sénatrice, votre rapport souligne que le projet d'inscription de la gastronomie au patrimoine immatériel de l'UNESCO n'est pas une fin en soi. Vous proposez dans ce rapport une série de mesures concrètes pour, et je vais vous citer, convertir cet élan mobilisateur en sursaut. Quelles sont les principales pistes d'action que vous avez identifiées ?
Eh bien, je dirais tout d'abord, je vous le disais tout à l'heure, c'est un secteur économique aussi, la gastronomie, au-delà d'un grand plaisir de pratiquer, qui génère environ 50 000 emplois chaque année. Donc je pense que ce rapport et cette démarche d'inscription va être l'occasion de mieux faire connaître ces métiers. Et c'est vrai qu'en termes économiques, ça peut être vraiment un plus pour la France. Je crois qu'il y a un manque d'adéquation entre des jeunes aujourd'hui qui souvent cherche une voie, il faut le savoir, c'est difficile dans le monde actuel de trouver sa voie et de savoir quel métier on veut faire, et ces emplois qui sont proposés qui ne trouvent pas toujours preneur. Donc je compte sur cette démarche et également mon rapport pour qu'on puisse communiquer sur ces métiers, aller dans les écoles, dans les centres d'apprentissage, mieux les faire connaître, montrer que ces métiers aussi permettent de partir du bas de l'échelle pour arriver en haut si on le souhaite, qu'ils offrent des métiers en fait complètement différents dans les services, mais on peut faire des tas de choses. Et d'ailleurs, je dirais que le parcours des grands chefs en est un exemple extraordinaire. Quand vous interrogez la plupart des chefs, grands ou moins grands d'ailleurs, ce sont des parcours humains extraordinaires qui montrent bien qu'on peut partir de très peu, mais qu'avec cette passion, on peut arriver. Donc je pense que j'ai beaucoup d'optimisme par rapport à l'impact économique que peut avoir ce rapport. Et donc, je souhaite qu'on travaille avec toutes les entreprises de formation, d'apprentissage et également pour les plus jeunes, qu'on puisse aller dans les écoles, faire mieux connaître ces métiers. Donc ça, c'est un premier point.
Vous mettez aussi l'accent sur l'éducation au goût pour toutes les générations. Ce qui, à l'heure où nous constatons les dégâts de la malbouffe, paraît particulièrement important. Comment modifier les comportements de nos concitoyens, et en particulier des plus jeunes d'entre eux ? Comment éduquer les enfants ? Certains pays ont mis en place des actions éducatives qui sont évoquées dans votre rapport. Notre pays peut-il s'en inspirer ? Et quel rôle voyez-vous pour les enseignants et les familles dans cette éducation au goût ? Quel peut être aussi le rôle du ministère de l'Éducation nationale, qui est certainement important et peut-être décisif.
Alors, dans le sursaut dont on parlait tout à l'heure, que doit créer ce rapport et puis cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, évidemment, il y a un sursaut par rapport aux très jeunes générations. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour différentes raisons culturelles et d'évolution de notre société, tout simplement, les jeunes générations, les tout jeunes, n'ont plus vraiment une relation avec le goût qui est celle qu'on pouvait avoir autrefois. On s'alimente différemment, quelque part, on vit de plus en plus dans des milieux urbanisés, on ne sait pas ce que c'est qu'un potager, voir des légumes pousser comme on pouvait le faire autrefois à la campagne. Donc quelque part, je compte beaucoup sur le fait qu'on puisse parler de cette démarche pour justement remettre l'éducation au goût, vraiment qu'on puisse en reparler et qu'elle puisse trouver, je dirais, une vraie place, notamment dans les écoles et notamment dans le plus jeune âge. Alors comment ? Eh bien déjà en faisant la part belle au produit qui est le produit qui est la base de toute cuisine. On s'aperçoit qu'on peut très bien s'alimenter avec de très bons produits sans que ça soit forcément plus cher, avec des produits simples, bien faits, mais de bons produits, qui se trouvent d'ailleurs pas forcément loin d'où on habite ou d'où on va à l'école. Bon, je parle pas forcément de la région parisienne, mais je parle de tous nos départements, toutes les nombreuses cantines scolaires qu'il y a en France, où il y a tout près des maraîchers, et pourquoi pas s'approvisionner chez les maraîchers locaux plutôt que de faire venir par des centrales des produits, etc. Donc il faut que les plus jeunes aient cette notion du goût, hein, réapprennent ce que c'est que le goût et le goût du bon. Et encore une fois, je souligne bien que ce n'est pas forcément plus cher, même souvent moins cher, puisque ce qui est très cher, c'est de faire venir des produits de très loin et surtout hors saison. Et ça, c'est contraire à ce qui doit se faire. Donc l'éducation au goût, pour moi, est primordiale. Donc ça passe beaucoup par l'école. Donc ça, j'en ai parlé déjà avec le ministre de l'Éducation nationale. Et il faut qu'on mette en place des actions très concrètes dans les écoles. J'en ai parlé également avec tous les professionnels de la cuisine que j'ai auditionnés et tous sont d'ailleurs d'accord pour faire bénéficier de leur expérience aux plus jeunes dans les écoles. Il y a des exemples qui se font à l'étranger très très bien, je les ai cités dans mon rapport, ça fonctionne très bien et en général les enfants sont très contents.
Donc on peut certainement s'en inspirer et très utilement s'en inspirer et les adapter
tout à fait.
Dans notre
pays. Et il s'agit vraiment là d'une question non pas de moyens, parce que ça peut se faire sans moyens, mais vraiment d'une question de volonté. Et ça, c'est valable, l'éducation au goût pour les plus jeunes, puisqu'on forme ainsi les futures générations. Quelque part, il y a aussi le problème de santé publique qui est sous-jacent, puisque si on mange bien, quand même, on a une meilleure santé. Mais au-delà des plus jeunes générations, je pense aussi à d'autres... lieux publics où on se nourrit aussi. Je pense par exemple aux hôpitaux. Pourquoi est-ce que traditionnellement on dit qu'on ne mange pas très bien dans les hôpitaux ? Il n'y a aucune raison. Voire même au-delà des cantines, des écoles, j'ai même cité les prisons. Je veux dire, il y a des tas d'endroits où on mange collectivement et où on peut mieux manger à partir de bons produits et qu'à la limite, c'est une simple prise de conscience de ceux qui ont à gérer ces lieux de restauration collective.
Oui, vous plaidez pour que ces lieux publics, ces cantines publiques deviennent des lieux d'éducation au goût.
Exactement. Pour tout type de population.
La lutte contre l'obésité est un enjeu de santé publique. Comment prévenir l'obésité ? C'est, je crois, l'objet d'un rapport récent, tout récent, de Madame Valérie Boyer. Quel est votre point de vue sur cette lutte, cette prévention de l'obésité ? Et quelles sont les mesures et qui pourraient donc permettre d'éviter ce phénomène croissant ?
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un rapport qui sort donc sur le problème de la nutrition en France. Je dois dire que je n'ai pas lu ce rapport, puisque c'est tout récent, je n'ai encore pas consulté ce rapport. Ce que je peux dire sur le sujet, c'est, je le disais à l'instant, c'est que c'est vrai que les jeunes générations, pour différentes raisons de mode de vie, c'est vrai, n'ont pas appris à bien se nourrir. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, un effort à faire et une éducation à faire envers toutes ces jeunes générations et d'ailleurs peut-être les autres qui quelque part maintenant ont aussi un mode de vie différent et donc ont les mêmes problèmes. Alors c'est vrai qu'il y a un problème de santé publique par rapport à l'obésité, c'est un problème qu'on a beaucoup observé notamment aux États-Unis ces dernières années, c'est un problème qui arrive chez nous parce qu'on a pris le même mode de vie, le même mode d'alimentation. Donc, il faut absolument réagir. Ça, je crois que c'est le devoir des pouvoirs publics et des politiques. Hein. Donc, c'est très bien que Mme Boyer ait fait un rapport dans ce sens. Encore une fois, je ne l'ai pas consultée. En revanche, ce que je dirais pour ma part, c'est que je suis plutôt partenaire de travailler sur l'éducation, sur la formation, plutôt que sur le fait d'interdire et encore moins de taxer. Mais ça, c'est tout à fait personnel. C'est vrai qu'en tant que politique, je considère qu'on n'a pas à trouver une solution fiscale à chaque problème que rencontre la France ou les Français et qu'il y a beaucoup d'autres solutions que ce type de choses, de taxation. Donc j'attends de voir exactement ce qu'il y a dans ce rapport, mais pour ma part, encore une fois, j'irai plutôt dans le sens des recommandations et qu'il y ait vraiment une action des pouvoirs publics pour mieux éduquer les jeunes et voir tous les Français par rapport à l'alimentation. Je pense que les industries alimentaires aujourd'hui commencent à être très sensibles à ces sujets et qu'elles doivent accompagner ce mouvement, hein, que ce n'est pas le seul problème des pouvoirs publics, que tous les acteurs doivent s'y mettre et que si ça se fait dans ce sens-là, si tout le monde s'y met, on peut à mon avis y arriver sans impôts supplémentaires.
La pédagogie est donc au cœur de cette prévention et de cette éducation
en ce qui me concerne,
au goût
en tout cas, oui.
Pour laquelle vous plaidez dans votre rapport. Si nous revenons au projet d'inscription de notre gastronomie au patrimoine de l'UNESCO, je voulais vous demander si vous pouviez nous en dire un peu plus sur les travaux préparatoires, sur leur état d'avancement, quel est le calendrier prévu et peut-être aussi quel rôle entend jouer le Sénat et sa commission des affaires culturelles dont vous êtes membre dans la suite de cette belle aventure.
C'est vrai que moi, j'ai fait donc un rapport de recommandation et qu'aujourd'hui, il y a le travail parallèle et le plus important de la mission de Jean-Robert Pitt, hein, qui donc lui est chargé, avec toute son équipe, d'instruire ce dossier pour qu'il soit présenté devant l'UNESCO, ce qui interviendra normalement en septembre 2009. Donc, dans moins d'un an. Aujourd'hui, bien sûr que, ayant fini mon rapport, je continue à suivre ces sujets et que je travaille très très bien avec la mission Pitt. Donc, le calendrier qui est prévu, c'est que normalement, ce dossier arrive devant le ministère de la Culture au mois de février environ, au printemps, fin de l'hiver plutôt, puisque c'est le ministère de la Culture qui va, je dirais, le mettre en forme, hein, pour qu'il puisse être présenté à l'UNESCO et que normalement, donc, il sera présenté fin août, début septembre à l'UNESCO. Donc ça, encore une fois, je prends beaucoup de précautions pour parler du calendrier puisqu'il s'agit du calendrier de la mission Pitt. En revanche, en ce qui me concerne et en tout à fait en accord avec Jean-Robert Pitt, je vais prendre très prochainement une initiative au Sénat pour continuer sur ces sujets. D'ailleurs, à la demande, je dirais, de mes collègues sénateurs qui ont été très intéressés par ce travail et qui ont compris l'enjeu et au-delà, je dirais, de l'aspect très sympathique du fait de bien manger auquel on est, c'est vrai, Français, tous bien attachés, l'enjeu économique, culturel, voire pour d'autres pays, de ce travail. Donc, je vais prendre une initiative. Mais comme vous le savez, au Sénat, en ce moment, nous sommes encore en période d'élection. Et avec le prochain président du Sénat qui, très probablement, on peut le dire, sera M. Gérard Larcher, qui est très attaché et qui m'a déjà dit qu'il souhaitait en effet que je continue à travailler sur ces sujets. Donc le Sénat va prendre une initiative pour approfondir ces sujets.
Bien, nous aurons sans doute l'occasion d'évoquer cette initiative avec vous, peut-être dans les mois qui viennent, sur Canal Académie. Afin que cette initiative soit partagée par l'ensemble des Français et pour favoriser donc la prise de conscience de nos concitoyens sur ces questions, ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable d'accompagner cette opération par une communication auprès du grand public, une communication qui pourrait être un petit peu du même type que celle qui accompagne des candidatures aux Jeux Olympiques? Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors ça, c'est quand même du ressort de la mission Pitt. En ce qui me concerne, c'est vrai que mon rapport a eu un effet didactique, je le disais tout à l'heure, c'est certain, parce qu'au-delà de l'annonce qu'a fait le président de la République et que tout le monde a découvert, il fallait vraiment informer, je dirais déjà, les premiers concernés, à savoir les professionnels du secteur. Donc ce rapport a au moins permis qu'on parle du sujet et d'ailleurs d'intéresser les médias, comme d'ailleurs le vôtre, et je vous en remercie parce que c'est ce qui fait aussi progresser cette démarche. Pour ce qui est de la communication, c'est vrai que c'est la mission PIT qui choisit. Ceci dit, nous en avons parlé et je pense qu'il y aura un certain nombre de projets, enfin d'actions qui seront menées, qui permettront en effet de communiquer sur l'avancement du projet déjà et sur son utilité. Donc ça va se faire, je pense, très bientôt avec un calendrier qui sera fixé par la mission PIT.
Et qui permettra de sensibiliser le grand public.
Tout à fait, tout à fait.
Bien. Madame la sénatrice, je vous remercie d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui, malgré un emploi du temps très compliqué et chargé, je crois, compte tenu de l'actualité du Sénat. Merci de nous avoir éclairés sur ce beau projet d'inscrire la gastronomie française au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un projet délicat, complexe, mais qui représente, comme vous nous l'avez bien montré, un intérêt majeur pour notre patrimoine et pour notre culture. Merci.
Merci à vous. Merci beaucoup.
J'invite tous nos auditeurs qui souhaitent lire ce rapport à le retrouver sur le site de Canal Académie ou sur le site internet du Sénat, www.sénat.fr.